Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiopartas.net.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi, à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.
Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui dresser un premier bilan de la saison touristique. Pour cela, je suis en compagnie de Margot Dumas, responsable des accueils de l'agence d'attractivité touristique Gorges Causses Cévennes, Brigitte Chapelle, technicienne accueil et sensibilisation au parc national, et Pascal Michel, par téléphone, qui lui a été agent de terrain saisonnier cet été sur les Goales. Alors tout d'abord, en 2020 et 2021, deux années qui ont été marquées par la Covid, le territoire avait été particulièrement prisé par les visiteurs, notamment durant l'été. Un retour à une fréquentation dite normale avait été constaté l'année dernière. Que peut-on déjà dire pour cette année, même si elle n'est pas terminée ?
On peut dire que cette année, oui, on retrouve une fréquentation entre guillemets dite normale. Voilà, donc on retrouve des chiffres plus ou moins stables, même comparé à l'an dernier 2022. Voilà, bien que sur le territoire, on observe une légère baisse au mois de mai-juin, début juillet. Cette année, on peut dire que c'est dû un peu à la météo. On a eu notamment sur les ponts de mai une météo pas très favorable à la destination. Donc on a eu plusieurs annulations de dernière minute sur nos séjours. Et il faut aussi savoir que cette année, sur la tendance nationale, on a 33% des Français qui ne sont pas partis en vacances dû à l'augmentation des coûts sur les nuitées. Et donc notre destination a connu une légère baisse. Pour mi-juillet jusqu'à septembre, là on retrouve des chiffres totalement normaux et on est même très content de la fréquentation de ce mois de septembre.
Donc la saison un petit peu plus courte alors,
c'est une ça ? Saison un peu plus courte. Après, nous ce qu'on peut observer nous sur nos bureaux d'accueil, parce que donc on a la maison du tourisme et du parc, mais on a aussi 5 autres bureaux sur la destination, donc Hispaniac, Saint-Enimi, La Malène et Merveilles. On augmente une augmentation nous de fréquentation par rapport à l'an dernier. Donc on en revient à ce souci de météo. Bien évidemment, les gens se déplacent plus chez nous pour savoir ce qu'il faut faire quand il pleut. Voilà, mais une saison un peu plus courte, mais qui, à mon avis, est prometteuse pour septembre-octobre. Donc, on va retrouver des chiffres à peu près stables par rapport à l'an dernier.
Du fait de la météo aussi
ou... Oui, je pense, oui. Là, on observe vraiment une forte augmentation sur la destination en septembre-octobre avec ce bel état indien auquel on a le droit. mais du coup, voilà, on peut se dire que... Je pense que les chiffres seront stables par rapport à l'année dernière. Voilà.
Pascal, toi qui étais saisonnier donc sur les Goales, tu as vu une petite différence aussi, toi, par exemple, de fréquentation entre juillet et août ?
Oui. En juillet, ça a été relativement calme. En août, il y a eu plus davantage de monde, mais surtout aux alentours du 15 août, un peu avant, avec la nuit des étoiles, et un peu après. Et c'est ouais, le pic a été à ce moment-là, sur la mi-août, en ce qui concerne les Goales, enfin le secteur de les Goales, en tout cas.
D'accord. Donc Margot, tu parlais de la maison du tourisme et du parc, hein, donc avec il n'y a pas que celle-ci, hein, il y a également d'autres maisons. Mais par exemple, entre le printemps et l'été, combien de visiteurs ont été accueillis ?
Alors, sur la maison du tourisme et du parc, à partir d'avril jusqu'à septembre, on est à 50 300 visiteurs. Donc au printemps, on est à peu près à 15 500 visiteurs. Et sur juillet-août, on est à 28 000. Voilà. À savoir que sur l'ensemble de nos bureaux, jusqu'à septembre, là, d'avril à septembre, on est à 91 000 visiteurs. Donc la maison du tourisme et du parc représente plus de la moitié de nos visiteurs sur nos bureaux.
Voilà. Donc c'est assez stable par rapport aux années précédentes.
Oui, il y a même une augmentation. Une augmentation, mais il faut savoir que l'année dernière, on était vraiment en période de canicule. Donc forcément, on va dire que nos horaires d'ouverture n'étaient pas forcément adaptés à l'activité des touristes. Voilà. Donc du coup, cette année, du fait qu'on ait eu des chaleurs quand même un peu moins importantes, les gens sont plus revenus dans nos bureaux pour pratiquer d'autres activités comme de la visite de sites ou de la randonnée. On a eu beaucoup de randonneurs cette année, notamment. Voilà, avec des températures plus agréables pour aller marcher en juillet-août.
Voilà, donc vous parlez des randonneurs. Alors, au fil des saisons, est-ce que les profils des visiteurs changent ? Est-ce que, en fonction de la saison, en fonction de leur demande, est-ce que c'est bien marqué ou pas ?
Oui, on a quand même une typologie de visiteurs très marquée. Notamment, printemps, on est plus sur des couples sans enfants, des seniors. On a aussi une clientèle étrangère qui est quand même plus importante qu'en juillet-août. Et on retrouve cette année une forte augmentation de la clientèle de groupe. On a beaucoup de clubs de randonneurs, de clubs de cyclistes. Voilà. Après, les principales questions posées pendant la période de printemps, c'est vraiment la randonnée, et notamment la randonnée en itinérance. On a vu cette année, avec le nouveau GR des Gorges et Vallées du Tarn, donc le nouveau GR 736 qui suit tout le Tarn de Villefort à Albi, où là, on a une forte augmentation des visiteurs en itinérance, enfin des randonneurs en itinérance. Et puis toujours une très belle fréquentation de Stevenson également.
Et là, l'automne, c'est...
À l'automne, on repasse, été, on oui. passe là sur un public plus familial, couple avec enfants, donc avec des questions sur les visites de sites, les grottes, les musées, ce genre de choses. Et sur automne, on repasse sur une fréquentation comme au printemps, donc là, plutôt randonneur en itinérance, avec le beau temps, on en a... énormément cette année, mais aussi avec beaucoup de seniors, plus pour les visites de patrimoine. Voilà, cette année, en tout cas pour ma part, j'ai pu remarquer qu'on avait aussi beaucoup plus de questions sur tout ce qui concernait les visites entre guillemets gratuites. Donc visites de village, les animations du parc, les visites de sites naturels. Voilà, on voit qu'il y a quand même une forte demande et aussi sur un tourisme de proximité.
Oui, le contexte économique, vous le ressentez au quotidien.
Oui, on le ressort beaucoup à l'accueil. Alors, les autres années, on observait que nos visiteurs pouvaient faire plus d'une cinquantaine de kilomètres pour aller visiter un site. C'est fait à peu près 2 ans qu'on retrouve de nouvelles questions. Où les touristes pratiquent du coup un tourisme de proximité, donc à faire des choses vraiment sur place depuis leur hébergement ou vraiment pas loin. Donc pareil, la mise en place des navettes touristiques pendant juillet-août a bien marché cette année. Donc il y a eu une belle promotion de la part de tous les agents d'accueil et elles ont été vraiment sollicitées pour aller faire de la visite ou même de la randonnée. Les gens ont quand même tendance à moins utiliser leur véhicule depuis 2 ans maintenant.
Est-ce qu'il y a des habitués du territoire ? On avait vu pendant le Covid que la destination française avait été prisée, besoin de se ressourcer dans des espaces naturels. Bon, des personnes qui n'avaient jamais eu l'occasion de fréquenter ce genre de milieu venaient. Est-ce que cette année, c'est la même chose ? Est-ce qu'on a des habitués ? Est-ce qu'on a des gens qui découvrent pour la première fois les espaces naturels, entre guillemets ?
Je pense que sur ça c'est pareil, c'est redevenu un peu comme avant juste après Covid, on a eu des visiteurs qui avaient entre guillemets tendance à partir au bord de la mer et qui n'étaient pas forcément habitués à un environnement complexe comme les gorges du Tarn, les Causses, ce genre de choses. Là cette année, on revient sur des gens qui sont pratiquants de cet environnement. On est sur des randonneurs, on est sur des gens qui sont déjà sensibilisés à l'environnement. On a moins affaire à des personnes qui, entre guillemets, avaient l'impression d'avoir tout sur place et ont découvert un environnement difficile. Voilà, complexe par rapport aux services, par rapport au dénivelé, par rapport à tout ça. Voilà, là, cette année, on retrouve des gens qui ont choisi de partir dans une zone naturelle. Et donc, du coup, à l'accueil, c'est plus facile pour orienter nos visiteurs.
Pascal, c'est quelque chose que tu as constaté en rencontrant les visiteurs ?
Oui, il y a sur le secteur de l'Aigoual, en fait, on rencontre beaucoup de publics différents sur juillet-août entre les randonneurs habitués qui ont les codes justement d'un parc national, qui ont les codes de la moyenne montagne, mais des touristes aussi qui sont plus là de manière enfin tout à fait occasionnelle et qui du coup connaissent pas du tout par exemple le pastoralisme, ce qui était une de nos missions là, de faire interface avec le pastoralisme. Donc il y a après il y a les cyclistes, il y a en fait il y a beaucoup de publics différents qui fréquentent le parc et ils ont pas tous le même degré d'information pour le pratiquer.
Très bien. Cet été, chaque été, le parc organise des animations. Donc cette année encore, hein, il y a plus d'une centaine d'animations qui ont été proposées. Alors, il y avait des nouveautés hein, cette année, Brigitte.
Tout à fait. Ben, comme le disait Margot, on avait constaté dès les années passées et notamment l'année dernière une volonté d'itinérance de nos visiteurs. Et donc cette année, nous avons essayé de lancer des activités qui permettent aux gens de circuler sans voiture dans le parc. Donc nous avons un peu modifié la façon de présenter nos animations avec des rendez-vous en proximité de village, donc d'hébergement, ce qui répond aussi aux besoins des visiteurs d'avoir des activités proches de leur lieu de séjour, proches également des transports en commun, les navettes touristiques notamment, et puis pour les parties plus nord-est du parc, l'accès à des gares ferroviaires. Donc Genolac, Villefort, voilà. Donc nous avons proposé plusieurs journées en partenariat avec des offices de tourisme, journées, demi-journées d'activités. Et quand il s'agissait d'une demi-journée, l'office de tourisme compétent proposait une animation complémentaire et puis donc possibilité de retour par une navette, voire par un train. Ou les voies vertes également, puisque notamment à Florac, nous avons la voie verte qui est aménagée aujourd'hui jusqu'à Saint-Julien-d'Arpan. Voilà, et puis du côté de Sumène également, entre Ganges et Sumène, en bas de l'Égoual. Ces activités, je pense que nous ne les avons peut-être pas suffisamment communiquées encore, puisque pour nous, c'était aussi une nouveauté, mais nous allons les poursuivre, les continuer, et ça fait partie vraiment des axes de réflexion. D'ailleurs, sur la plateforme Destination, Parc National des Cévennes, nous avons indiqué pour toutes les randonnées déjà saisies, chaque fois qu'il était possible d'y accéder par un transport en commun ou par une voie verte.
Donc voilà, ça peut répondre dans les années futures à vraiment une réelle demande, comme ce que disait Margot, pour cette année, développer le tourisme de proximité.
Voilà. Pour d'autres nouveautés, donc bon, depuis plusieurs années maintenant, nous proposons des soirées lunaires dans le parc. Cette année, il n'y en avait qu'une, le 1er août, puisque la pleine lune se trouvait à ce moment-là. Nous avons proposé une activité tout à fait nouvelle et qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pourtant pas. En binôme avec une association qui s'appelle Cinécyclo, nous avons proposé 3 soirées où le projectionniste se déplace uniquement en vélo et la projection du film, alors ça pouvait être du documentaire, du film d'animation pour enfants, voilà, sur des thématiques différentes, et les spectateurs étaient invités donc à pédaler pour faire fonctionner le projecteur et produire donc l'électricité. C'est quand même important que les gens prennent conscience aussi de la démarche, comment arrive l'électricité que nous consommons. Du coup, ça a réuni une 150 personnes à peu près, ces 3 soirées. Le tout réalisé en partenariat avec des bénéficiaires de la marque Esprit Parc National. Donc dans le secteur de Genolac, au Mas Nouveau. Ensuite, sur un camping très familial à Peyremale. Et la dernière soirée, sur le thème de la nuit étoilée, s'est tenue donc au cœur du village de Coury, à l'extrême limite du parc. Donc,
ça peut être pérennisé ou c'était juste pour cette année, au vu de l'affluence, enfin de la fréquentation, ça pourrait.
Alors, du coup, nous avons conduit cette série d'animations dans des secteurs qui sont un peu moins fréquentées que d'autres parties beaucoup plus attractives du territoire. Nous pensons que c'est vraiment une bonne formule qui a trouvé son public en tout cas, et cela sera certainement reconduit sur un autre secteur du parc pour 2024. Et puis toujours pour rester sur le thème de la nuit, une belle conférence proposée par Éric Lagadec, donc un astrophysicien aujourd'hui assez connu, s'est tenue au Villaret sur le Cosméjan, qui a réuni donc 150 personnes, et vraiment nous avons refusé du monde sur cette soirée dont la thématique était « Nous sommes tous des poussières d'étoiles ».
Elle fonctionne bien, hein, les soirées nocturnes, les animations nocturnes du parc. On va dire que c'est un succès. Elles font partie des animations qui fonctionnent le mieux.
Mais elles fonctionnent vraiment très très bien. Elles font partie des animations phares du parc. Si on rajoute à ça que les températures en journée augmentent assez régulièrement, forcément, profiter de la fraîcheur relative ou en tout cas agréable de la nuit rajoute à l'expérience, parce que il est assez rare d'une part dans les lieux où l'on vit de profiter de la nuit, et puis d'avoir des agents et des gens très qualifiés pour parler de la biodiversité nocturne, du ciel étoilé. C'est quand même une expérience assez chouette.
Magique.
Magique même, oui.
Est-ce qu'il y a des animations qui ont encore du mal à trouver leur public ?
Pas vraiment. Moi, je pense que à peu près chaque animation trouve son public, parce qu'il y a des animations qui sont ciblées, bien sûr, par exemple sur un public de très bons marcheurs ou sur des thématiques un peu fines. Là, évidemment, ce sont de tout petits groupes. Après, la majorité des animations trouvent leur public. Depuis 2 années, ce que nous constatons, c'est qu'évidemment, la chaleur va inciter les gens à ne pas s'inscrire par crainte de la chaleur. Pour autant, nous avons essayé d'adapter nos animations, mais on ne peut pas prévoir non plus les périodes de canicule de façon pointue, précise. Donc nous nous adaptons autant que possible en mettant des animations plutôt le matin, plutôt fin de journée. Voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il puisse faire très chaud et que, par exemple, dans le Piémont-Sévenol, sur Saint-Jean-du-Gard, des lieux vraiment très exposés à la chaleur, ou même le Collet de Dèze, les gens préfèrent ne pas s'inscrire par crainte de souffrir de la chaleur.
Margot, est-ce qu'il y a des demandes, j'imagine, pour les points de baignade ? Ça fait partie des demandes récurrentes ?
Oui, notamment juillet-août, c'est peut-être après la rando la question numéro 2, voilà, pour les points de baignade. Donc nous, on est sur quand même une politique où on oriente vers les villages, voilà, pour des accès sécurisés notamment. Mais oui, c'est une forte demande, hein. Les gens ont bien conscience que s'ils viennent ici sur le territoire du parc national des Cévennes, c'est aussi pour la rivière. Voilà, c'est une des premières volontés des visiteurs, hein, de découvrir la rivière du Tarn, du Tarnon. Voilà.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite pour continuer notre bilan de la saison touristique.
Qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années.
jour en été. Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie surprend. Plus d'un million d'années. Et toujours en été.
Donc nous sommes de retour et pour la troisième année consécutive, le parc avait donc cet été recruté des agents saisonniers pour sensibiliser les visiteurs sur les secteurs les plus prisés. Donc Pascal, nous l'avons dit tout à l'heure, tu étais sur l'Aigoual et quelles sont les zones sur lesquelles tu étais le plus souvent?
Alors avec Elsa, avec qui j'étais en binôme, on passait... quasiment quotidiennement au sommet de l'Aigoual, au lac des Pises, les cascades d'Orgon aussi assez souvent, donc ça c'était les trois endroits où on passait le plus souvent. Après on allait aussi dans la vallée du Bonheur, près des cascades de l'Hérault, on balayait un peu tout le territoire entre le sommet de l'Aigoual et le lac des Pises. Donc c'était là, mais par contre c'est vraiment les deux endroits où on allait le plus souvent parce que c'est les endroits qui sont les plus fréquentés.
Donc tu le disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas le même niveau d'information sur le territoire. À quoi avez-vous dû être particulièrement vigilant?
Nous, tout d'abord, notre mission, on a été recruté dans le cadre du plan Loup, ça a été surtout de faire l'interface avec les troupeaux. Donc notamment sur les Gouales, il y avait un groupement pastoral, c'est pour tes 600 brebis, et c'est très fréquenté les Gouales, donc ça a été nous, ce à quoi il fallait qu'on soit vigilant, c'était que tout se passe pour le mieux, pour le troupeau, son berger, et pour les gens, pour qu'ils puissent profiter de leur visite. Donc ça a été surtout les chiens en journée à cet endroit-là. Au lac d'Épise aussi, il y a une estive, mais comme la commence un peu plus éloignée d'Épise, il a dû rencontrer moins de touristes. Après, donc dans un premier temps, c'est vraiment la cohabitation avec les troupeaux auxquels il fallait qu'on fasse attention. Et sinon, après, c'est la réglementation du parc en règle générale. Donc aussi bien les chiens en laisse que après les endroits où on peut bivouaquer. Sur tout ça, les camping-cars, où est-ce que qui peuvent se parquer. C'était ces points-là sur lesquels on devait être le plus vigilant.
Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes à nous raconter, oui, par rapport à cet aspect sensibilisation, notamment, je pense, à la présence de troupeaux sur les estives.
Alors ça, c'est un truc qui ne nous est pas arrivé directement à Elsa et moi, je sais que c'est arrivé sur le Lozère, mais ça nous a marqué. Et après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a expliqué aux gens. C'est sur le Mont Lozère, il y a des personnes qui se promenaient avec des chiens, dont un qui était sans laisse. Et ils sont arrivés à proximité d'un troupeau et ce chien a foncé sur le troupeau et a isolé une brebis et a fini par la tuer. Donc c'était un chien domestique. Et donc ça, c'est un exemple qui nous a marqué parce que souvent, quand on va à la rencontre des gens qui sont avec un chien sans laisse, on leur explique à proximité de troupeaux, enfin dans le cœur du parc, il faut tenir le chien en laisse. D'autres en plus à proximité de troupeaux parce qu'on ne sait jamais comment ils vont réagir notamment. Ils expliquent souvent que les chiens sont gentils, bien éduqués. Nous, enfin, dans la rhétorique, c'est de dire ils ont un instinct, on ne sait jamais comment ils vont réagir. Donc cet exemple-là, justement, nous a marqué parce que c'est terrible qui est arrivé à ce troupeau. Ça, c'est une anecdote qui nous a marqué. Après, celle-ci, du coup, elle est un peu difficile, mais il y en a des plus rigolotes. C'est pareil, ça nous est pas arrivé directement à nous, mais à Raphaël qui était sur les Gouales, il a subi une attaque de loup et un jour il en a parlé avec des randonneurs. Il a dit je me suis fait attaquer par le loup et les randonneurs lui ont demandé ah bon, il vous a mordu où? C'était la petite anecdote qui nous avait fait rire.
Et par rapport à la prévention incendie, au risque incendie, cette année, ça s'est passé comment, cet été?
Alors, je sais qu'Elsa, qui avait fait l'année dernière, qui avait déjà fait ce travail-là, elle avait rencontré plus de feux, d'après elle, notamment en début de soirée. Nous, on a fait plusieurs fois des horaires décalés où on finissait en début de soirée pour essayer de voir des personnes qui pouvaient tenter de bivouaquer et dans ce cas-là potentiellement faire des feux. Donc cette année, on en a peu surpris. On sait qu'il y en a eu malgré tout, mais on en a peu surpris. L'année dernière, il y avait eu plus de feux qui étaient faits. Nous, on a trouvé des foyers. Difficile parfois de dire s'ils étaient récents ou anciens. On a eu un moment où la sécheresse était telle que y avait eu des arrêtés préfectoraux pour interdire de pénétrer dans certains massifs, notamment autour des pistes. Donc là, on avait fait un gros travail de prévention autour de ça pour dire vraiment aucun réchaud, rien de tout ça. Les gens dans l'ensemble étaient à l'écoute.
Le bilan est globalement bon. Enfin, comment tu ressens les choses?
À titre individuel, moi je trouvais ça comme une expérience, vraiment une expérience très chouette. J'ai appris énormément de choses. Après, à l'échelle de notre mission, c'est vraiment 2 mois qui au final ont eu des variables. Enfin, au tout début, donc nous on a pris vraiment nos marques début juillet, ça a été relativement calme. Après, on a senti le début des vacances, donc un public familial. Juillet a été assez calme. Après, c'est début août où on commençait à avoir un peu plus de monde. Vraiment, je crois que c'était aux alentours du 10 août où il y avait le pic d'étoiles filantes. Et là, il y avait vraiment énormément de monde, notamment sur les Gouales en fin de journée par moment. Après, on a rencontré beaucoup de publics différents, comme je le disais en introduction. Je trouve ça super chouette. Donc, publics de famille, des publics d'experts, on va dire, de grandes randonnées, des cyclistes, des gens qui arrivent en claquette au sommet de l'Aiguille, qui sont surpris parce qu'il fait très froid. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Et donc, La danse qui a été vraiment très chouette dans notre travail, c'est ben, justement tous les échanges qu'on a eus et de rencontrer une grande majorité de personnes qui sont sensibles, qui méconnaissent parfois les réglementations, mais qui sont vraiment à l'écoute. Donc sur ça, c'était vraiment, vraiment une belle mission.
Très bien. Brigitte, l'emploi d'agent de terrain saisonnier, c'est une action bien accueillie. Ça fait maintenant 3 ans. L'idée, c'est de la pérenniser chaque année ?
A priori, oui, parce que nous nous rendons compte que c'est une action qui est vraiment très porteuse. Cette année, par exemple, nos trois équipes, donc que nous appelons binômes, qui donc l'une sur les Gouales, dont faisait partie Pascal, une autre qui se trouvait sur le Cos et un peu les Gorges, et une troisième sur le Mont Lozère, ont sensibilisé en fait plus de 5 000 personnes. Ça veut dire qu'elles ont eu un contact direct, de vrais échanges avec au moins 5 000 personnes et directement dans l'espace naturel sensible. Effectivement, la mission donc a 2 volets. Mais dans tous les cas, il s'agit de sensibilisation. D'une part, sur sensibiliser les visiteurs en amont des estives, c'est-à-dire se positionner sur des points où on va pouvoir indiquer aux gens qu'ils arrivent sur une estive et que là, les bons comportements à adopter majoritairement doivent l'être encore plus, et notamment s'ils sont avec des animaux. Et puis, il y a des comportements à avoir, puisque la majorité des troupeaux aujourd'hui sont protégés par des chiens à cet effet. Et évidemment, il y a toute la mission sensibilisation à l'espace naturel sensible lui-même, quelquefois à l'aide d'observations partagées avec des visiteurs, notamment des rapaces, mais aussi d'insectes, d'animaux, voire de plantes, qui favorisent aussi la conscientisation des gens qu'ils arrivent sur des paysages fragiles et qui ont besoin d'être protégés pour pouvoir en profiter encore longtemps.
Merci, je vous propose de terminer sur ces mots cette émission et on se retrouve très bientôt.
Vous écoutez Séquence Parc sur 107FM et sur le site www.radiopartas.net.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une 20aine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 8h30.
Séquence Parc sur le 107FM.